Sandrine Covin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérante chez Turgot Asset Management. On va parler avec vous de matières premières, notamment de pétrole, de perspectives sur ces marchés. C'est vrai qu'il y a pas mal d'actualités dans ce domaine-là. Si on fait un petit bilan peut-être pour commencer, on pourrait être étonné peut-être du niveau de prix effectivement sur ces matières premières compte tenu de la faible croissance en Europe, peut-être du ralentissement qui a eu lieu dans les pays émergents. On a quand même des niveaux qui restent assez élevés si on regarde notre actualité économique.
Oui, en effet, on a des niveaux élevés malgré une croissance économique qui n'est pas extraordinaire. La justification de ces prix élevés, elle est reflétée dans pas mal de problèmes qu'on a aujourd'hui au niveau de l'approvisionnement qui se trouve notamment au niveau des principaux pays producteurs où on a toujours des perturbations au niveau de la géopolitique. Donc on a beaucoup eu les yeux tournés vers l'Ukraine. Alors l'Ukraine n'est pas producteur, hein, mais c'est la Russie, mais c'est un point de passage l'Ukraine pour les importations en Europe de gaz ou de pétrole. Et donc c'est effectivement dans le cadre de la crise en Ukraine, ça a été une inquiétude. Mais au-delà de l'Ukraine, on a toujours des points de tension au Moyen-Orient ou en Afrique du Nord. Et là, tout récemment, on voit que la situation en Libye dégénère. Et alors qu'on pensait que la production allait retrouver un niveau, en tout cas allait retourner vers des niveaux plus normaux, on est toujours sur des niveaux très très faibles. On est à 250 000 barils par jour de production contre 1,4 million en temps normal quand il n'y a pas de perturbations.
Donc on pourrait dire que le marché reste tendu avec ces effets-là sur quelques pays effectivement qui devraient être au-delà de cette production, de la production actuelle.
Oui, exactement, parce que là on parle de la Libye, mais vous avez aussi l'Irak, où on n'entend pas beaucoup dans l'actualité, mais il y a aussi souvent des difficultés, le Nigeria, enfin, bon, la liste est assez longue malheureusement, de pays où potentiellement il peut y avoir des grosses perturbations.
Alors on parlait de l'Ukraine, c'est vrai que si les investisseurs ne sont pas inquiets, en tout cas pour l'instant sur les marchés, on va dire sur les marchés actions, sur le secteur de l'énergie, ça pose quand même pas mal de questions. On a vu les Russes décider de se tourner vers la Chine, plutôt que vers l'Europe. On a en tête ce qui est en train de se passer là, ce qui est en train de faire la Russie. Est-ce qu'elle peut se permettre de n'aller fournir que la Chine, quelque part ?
Disons que les Chinois sont de gros consommateurs et vont continuer de l'être, avec une croissance de la demande qui va être importante. Donc effectivement, la Chine, c'est un client important pour la Russie. Et surtout, le message, je pense, qu'a voulu faire passer Vladimir Poutine avec ce gros contrat qui a été signé. Alors, il faut rappeler que ce gros contrat gazier qui a été signé cette semaine, les discussions, ça faisait 10 ans qu'elles étaient en cours avec les Chinois et que, comme par hasard, tout s'est accéléré récemment dans un contexte où il y avait des tensions entre l'Europe, enfin en tout cas l'Occident, et la Russie. Donc je pense qu'effectivement Vladimir Poutine a voulu passer un message, dire votre gaz je peux le vendre à d'autres clients, il n'y a pas que vous, et donc ça resitue un peu le rapport de force. Nous Européens on reste quand même très dépendants de pays producteurs et quand il y a un souci géopolitique ça nous met vraiment en risque sur les approvisionnements. En tout cas ça nous met dans une situation où on est obligé de s'approvisionner sur des prix qui vont être assez élevés par rapport à d'autres acteurs comme, je pense, aux États-Unis qui ont, eux, beaucoup de gaz au niveau domestique.
Alors, du côté des États-Unis, justement, il y a eu aussi des nouvelles, là, côté pétrole de schiste, il faut bien être précis dans ce domaine-là, en Californie, et avec des attentes, effectivement, beaucoup moins que prévu. Est-ce que le marché a réagi à ça ?
Alors pour l'instant, je ne sais pas si le marché a vraiment beaucoup réagi, mais c'est vrai que ça, c'est quand même la nouvelle qui est tombée il y a quelques jours. C'est un peu l'effet d'une bombe sur le marché, parce que le champ en question, c'est le champ de Monterey en Californie. C'est un champ qu'on avait estimé les réserves à 2/3 des réserves de pétrole de schiste aux États-Unis, et ça a été abaissé de 96% l'estimation de réserve. Donc c'est pas neutre. Et aujourd'hui, ce qui est évident, c'est que si on peut parler de véritable révolution sur le schiste au niveau du gaz, oui, mais par contre sur le pétrole, on n'y est pas encore. Il s'avère qu'il va falloir évoluer encore au niveau de la technologie pour pouvoir aller récupérer ce pétrole de schiste de manière plus importante.
Alors, le gaz de schiste, en revanche, on peut dire que, d'ailleurs, on se disait que si la crise perdurait entre effectivement l'Occident et la Russie, que peut-être les États-Unis aideraient l'Europe avec du gaz de schiste.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, il y a des projets donc d'exportation, donc avec des terminaux qui vont être en construction aux États-Unis pour exporter donc ce gaz en Europe ou même en Asie. Par contre, il faut avoir en tête que ce gaz, donc ça va être du gaz qu'il va falloir liquéfier et qui va être transporté par méthanier. Et là, le coût va être bien plus important qu'un gaz qu'on peut acheter en Russie et qui est transporté par pipeline. Je lisais récemment par des experts disaient que ça serait le double de prix d'acheter du gaz aux États-Unis par rapport à la Russie.
Donc ça veut dire clairement que le sujet énergie en Europe, on est au cœur là, oui, avec tous ces mouvements géopolitiques et effectivement technologiques, ça va être un sujet important.
Oui, exactement.
Pour les entreprises, il y a des entreprises sur le gaz de schiste qui se développent, y compris d'ailleurs des entreprises moyennes. Comment ça se passe au niveau des entreprises? Est-ce qu'il y a des bons résultats? Est-ce qu'il y a des nouvelles entreprises sur lesquelles investir?
Alors les entreprises qui sont sur le schiste, elles sont essentiellement aux États-Unis. Donc il y a beaucoup de sociétés sur le gaz et sur le pétrole. Sur le gaz, ça va un petit peu mieux parce que le prix s'est stabilisé. Il avait même un peu monté cet hiver. Donc ça a été un environnement plus favorable pour les producteurs. Et au niveau du pétrole de schiste, pour l'instant il y a effectivement beaucoup de croissance parce qu'on est au tout démarrage, même si je vous disais qu'effectivement le potentiel nous semble moins important, on est quand même au tout démarrage. Donc vous avez des petits acteurs aujourd'hui qui sont positionnés sur des bassins importants, donc on entend souvent le Eagle Ford qui sont donc, ou Utica, donc des bassins de Shell importants, et ces sociétés-là offrent des croissances assez importantes sur les prochaines années, et donc c'est intéressant pour les investisseurs d'aller se positionner sur ces petits acteurs.
Pour les sociétés en Europe de services pétroliers, on n'est pas du tout dans ce phénomène-là, ou est-ce qu'elles retrouvent de la croissance?
Elles retrouvent de la croissance. Alors, c'est pas forcément, elles ne vont pas être forcément sur le marché américain, mais sur les marchés internationaux, notamment dans l'offshore profond, il y a des gros projets qui commencent à revenir sur le marché. Il faut se rappeler que les compagnies pétrolières s'étaient retrouvées avec des budgets qui augmentaient fortement. Donc, elles ont eu une grosse discipline sur les investissements. Aujourd'hui, elles ont travaillé sur les coûts et elles peuvent, avec un prix du pétrole, comme on le disait tout à l'heure au début, qui reste élevé, envisager de mettre en développement ces projets. Donc vous avez des gros projets en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, qui voient le jour et qui sont des contrats donc, pour ces sociétés de services européennes.
Merci Sandrine Covin d'avoir été avec nous.